Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez, c'est le moment de retrouver notre émission mensuelle intitulée « Pour la dignité ». Cette émission donc sur les droits humains, préparée, réalisée et animée par Régis Coulange, responsable formation Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons parler bien sûr de Gaza, de la Russie, de l'Ukraine. Je vous parlerai aussi des lauréats de la bourse Gaëtan Motto, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis de la possibilité pour chacun d'être mobilisé pour les droits humains avec Amnesty International. Et à la fin, on parlera des actions du groupe d'Amnesty International de Digne. Voilà, alors bien sûr, la situation de Gaza est terrible. Et je vais vous parler d'une action que nous avons faite le 28 mai 2025 à Paris, avec d'autres associations, Greenpeace France, Oxfam, Médecins du Monde et ECHO. Nous avons versé plusieurs litres de colorant alimentaire rouge dans le bassin de la Fontaine des Innocents, au cœur de la capitale. La fontaine a pris une teinte rouge sang, comme un symbole des atrocités commises envers la population palestinienne à Gaza. Plusieurs activistes de nos organisations ont déployé des banderoles « Gaza, stop au bain de sang »,« Macron doit enfin agir » et « Cessez le feu » en soutien à la population gazaoui. Anne Savinel Barras, qui est la présidente d'Amnesty France, a déclaré à cette occasion « Les États qui ont de l'influence sur Israël doivent agir maintenant, faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et durable, mettre en œuvre un embargo complet sur les armes, soutenir des procédures judiciaires en cours, y compris en coopérant avec la Cour pénale internationale et en mettant en œuvre les décisions de la Cour internationale de justice. Enfin, la France doit œuvrer pour obtenir la révision de l'accord d'association Union européenne-Israël. On ne peut plus attendre, il faut mettre fin au génocide, l'inaction tue. » Jean-François Corti, qui est le président de Médecins du Monde, a déclaré « Nous ne parlons plus d'une crise humanitaire, mais d'un abandon délibéré de la population palestinienne. » Cécile Duflo, qui est la directrice générale d'Oxfam, a dit « À Gaza, la faim et la limitation de l'accès à l'eau sont utilisées comme armes de guerre, ce qui constitue un crime de guerre. » Et enfin, Jean-François Juilliard, directeur général de Greenpeace, « Nous demandons à Emmanuel Macron qu'il agisse avec courage, clarté et détermination pour mettre un terme à ce bain de sang. » Les demandes de nos associations sont un cessez-le-feu immédiat, définitif et durable, la fin du blocus illégal afin de permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et sa distribution en toute sécurité dans l'ensemble de la bande de Gaza, la facilitation du travail d'assistance à la population de Gaza des agences des Nations Unies et des organisations humanitaires, la proposition israélienne de créer des hubs militarisés en remplacement du système existant de distribution de l'aide est inacceptable et contraire aux principes du droit international humanitaire. On voit d'ailleurs récemment ce que ça donne. La libération immédiate et sans condition de tous les otages et de tous les prisonniers palestiniens, l'adoption d'un embargo sur les armes à destination d'Israël. La population de la bande de Gaza subit des bombardements incessants depuis octobre 2023 de la part de l'armée israélienne. Près de 53 000 Palestiniens et Palestiniennes sont morts et des centaines de milliers de Gazaouis sont victimes de déplacements forcés. Le déchaînement de violence et de destruction envers les Palestiniens semble sans fin. C'est un véritable génocide qui se déroule sous nos yeux. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement au bord de la famine à Gaza à cause de l'entrave à l'aide humanitaire. Après plus de 12 semaines de fermeture totale et sous pression de la communauté internationale, les autorités israéliennes ont enfin décidé, à partir du 21 mai, d'ouvrir le point de passage de Kerem Shalom pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Israël n'autorise actuellement que l'entrée de produits nutritionnels, de certains ingrédients alimentaires de base et de certaines fournitures médicales. Ce volume d'aide, très limité, est loin d'être suffisant pour répondre à l'ampleur et à l'étendue des besoins des 2,1 millions d'habitants de Gaza. Voilà, il y a d'ailleurs ce soir à 18h30 une manifestation pour demander la paix à Gaza. Le rendez-vous est au kiosque à Digne-les-Bains. On va écouter maintenant John Baez dans une chanson « Le déserteur ».
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne vous fais l'affaire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère étant souffert, qu'elle est dedans sa tombe, et se moquer des bombes, et se moquer des verres. Quand j'étais prisonnière, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, on est les années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bons apôtres, messieurs les présidents. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Voilà, on va maintenant parler de la Russie. Amnesty International jugeait indésirable en Russie. Notre organisation est listée parmi les organisations indésirables depuis le 19 mai 2025. Cette désignation intervient 3 ans après que les autorités russes ont fermé notre bureau à Moscou et ont bloqué l'accès au site web d'Amnesty International en Russie. La participation aux activités d'une organisation indésirable est punie par la loi en Russie. Être sur la liste des organisations indésirables en Russie signifie que nos activités vont être criminalisées, les organisations partenaires et les personnes travaillant avec nous peuvent être poursuivies. Participer aux activités d'une organisation indésirable est passible d'amende, voire de peine de prison. Cette désignation nous place parmi les dizaines d'ONG et de médias indépendants qui ont été pris pour cible ces dernières années dans le cadre d'une vaste campagne visant à réprimer la dissidence et à démanteler la société civile en Russie. Quelques mois à peine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notre bureau, celui de Human Rights Watch, et de 13 autres ONG ont été fermés. Le motif avancé par les autorités est le suivant, violation de la législation russe. Mais la réalité est la suivante, le Kremlin ferme notre bureau en raison de notre travail de défense des droits humains. Après les journalistes indépendants, les militants, les ONG russes de défense des droits humains, les autorités s'en prennent aux organisations internationales. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International au niveau mondial, a dit « Les autorités russes se trompent lourdement si elles croient qu'en fermant notre bureau, elles mettront fin à notre travail. Si le Kremlin cherche à vous faire taire, alors ce que vous faites est juste. » La fermeture de notre bureau en Russie et sa désignation en tant qu'organisation indésirable s'inscrit sur la longue liste des sanctions prises à l'encontre des organisations de défense des droits humains. Cela fait des années que les autorités russes s'attaquent à la liberté d'expression. En 2021, déjà, le niveau de répression était alarmant. Arrestation et condamnation du militant politique Alexei Navalny, liquidation de Memorial, la plus célèbre ONG russe, arrestation massive de manifestants pacifiques. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, la répression est devenue encore plus visible. Répression des mouvements anti-guerre, censure des médias, fuite des journalistes, blocage des réseaux sociaux et aujourd'hui, fermeture d'ONG internationales. Cela faisait 29 ans que nos équipes étaient installées à Moscou. Le 11 mars 2022, l'organisme russe de régulation des médias avait déjà bloqué notre site internet en langue russe. La fermeture de notre bureau et sa désignation en tant qu'organisation indésirable ne marquent pas la fin de notre travail en Russie. Au contraire, nous redoublerons d'efforts pour recenser, documenter, dénoncer les violations des droits humains commises par la Russie tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ce sont des actes désespérés que le pouvoir russe est en train de commettre. Nous continuerons de dénoncer, d'enquêter et de mettre en avant toutes les preuves que l'on aura lorsque des violations des droits humains seront commises. Pour la libération des prisonniers d'opinion, pour la défense d'un journalisme indépendant sans ingérence du pouvoir russe, pour que les personnes responsables de graves violations des droits humains, que ce soit en Russie, en Ukraine ou en Syrie, rendent des comptes devant la justice, nous n'arrêterons pas notre travail. On va maintenant écouter une chanson de Raphaël Angelini, « Liberté ».
Et ça, faudrait pas l'oublier.
Voilà, très belle chanson de Raphaël Angelini. La liberté, on peut nous l'enlever, et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais vous parler maintenant d'un entretien que nous avons eu avec Véronika Welch, qui est directrice d'Amnesty International en Ukraine. Son pays s'enlise dans une guerre qu'elle subit depuis plus de 3 ans, et les crimes restent impunis. Mais avec l'annonce de la création d'un tribunal spécial chargé de juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'espoir de justice renaît. Décryptage de la situation avec Véronika Welch, directrice d'Amnesty International Ukraine depuis 1 an. La création d'un tribunal spécial chargé de juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine est-elle historique ? L'Ukraine a appelé la création de ce tribunal dès 2022. lors de l'invasion à grande échelle du pays. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un tel tribunal est créé. Nous avons eu celui de Tokyo, celui de Nuremberg, mais il n'y en a pas eu d'autres depuis. Mais ni les statuts ni la manière dont le tribunal sera constitué ne sont encore rendus publics par le Conseil de l'Europe. Nous espérons qu'il n'y aura pas d'immunité personnelle pour les plus hauts responsables, chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères, ce que laisse pourtant présager le Conseil de l'Europe dans sa présentation. Cela signifie que Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov et Mikhaïl Michoustin, le Premier ministre, ne pourraient ni être convoqués au tribunal, ni poursuivis à cause de cette immunité. C'est une pratique très courante en droit international. Et dans certains pays autoritaires comme la Russie, les personnes peuvent occuper ces postes à tour de rôle pour toujours. Ils peuvent être président et premier ministre, puis à nouveau président. C'est malheureusement ainsi que cela fonctionne. L'immunité personnelle est notre principale critique envers ce tribunal et nous demandons à ce qu'elle puisse être levée. Notre deuxième critique concerne l'abstentia, c'est-à-dire la tenue de procès en l'absence des accusés. Nous sommes convaincus que si les personnes sont responsables de crimes de guerre, elles doivent alors faire l'objet d'un procès équitable en bonne et due forme. Cela renforcerait la crédibilité et la visibilité du jugement. Quoi qu'il en soit, nous nous réjouissons vraiment de cette évolution et de la création future de ce tribunal. La guerre continue et pourtant, le tribunal devrait être créé. Ce tribunal ne va pas être sous l'égide de l'ONU ou d'un autre organisme, mais sous la responsabilité du Conseil de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe fait beaucoup plus que ce qui a été fait auparavant, surtout depuis que les États-Unis se sont retirés. La menace est devenue un peu plus réaliste qu'elle ne l'était auparavant. Tout le monde pensait que le conflit allait rapidement être résolu. 3 ans après, on s'enlise dans cette guerre. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait être condamné ? Nous avons le mécanisme de la compétence universelle, que nous appelons chaque pays à appliquer. Si des personnes considérées comme des criminels de guerre se rendent dans ces pays qui appliquent la compétence universelle, elles peuvent être arrêtées et jugées pour leurs crimes. Il ne s'agit pas seulement de Vladimir Poutine, mais aussi de tous les autres responsables des crimes de guerre en Ukraine. Et bien sûr, nous avons aussi le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, que nous ne devrions pas oublier. Il a été émis à l'encontre de Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant, pour les crimes de guerre, de déportation et de transfert illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie. Ce mandat d'arrêt est toujours en vigueur. La CPI traverse une période très difficile en tant qu'institution. Elle est confrontée à de nombreuses attaques et de nombreux défis. En tant que communauté internationale, nous avons fait tant d'efforts pour imposer la CPI. Nous devons nous assurer de son assise aujourd'hui. Pouvons-nous faire confiance à la justice internationale pour juger des crimes commis par la Russie en Ukraine ? Même si le système de sécurité internationale imposé par la Seconde Guerre mondiale n'est pas parfait, il nous a permis de vivre près de 70 ans sans guerre en Europe, une situation qu'on ne devrait pas toujours considérer comme acquise. Le problème est que ce système est aujourd'hui remis en question. Ce système a été conçu sur la base du respect des conventions de Genève, de l'état de droit, la déclaration des droits de l'homme. Mais il a été mis en place sans prévoir de mécanisme d'application des lois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des situations où la Russie, ayant un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, bloque toutes les décisions. En tant que communauté internationale, nous disposons de tous les outils nécessaires pour résoudre ce problème. Mais nous devons inventer un mécanisme de mise en œuvre de la loi internationale qui soit utile, réaliste et adapté à la situation actuelle. Le problème, c'est que de nombreux outils créés il y a 70 ans ne correspondent plus vraiment à la réalité que nous vivons actuellement. On a aujourd'hui des pays dotés de l'arme nucléaire qui envahissent des pays tiers qui ont renoncé à l'arme nucléaire pour préserver la paix mondiale. Or, la communauté internationale ne peut pas répondre correctement à ces situations puisque le déséquilibre entre les pays autoritaires et les pays démocratiques n'est pas en notre faveur en ce moment. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équilibre mondial n'est pas en faveur des défenseurs des droits humains. Les révélations sur la déportation d'enfants ukrainiens en Russie ont eu des conséquences. La plus grande conséquence de nos révélations est l'obtention d'un mandat d'arrêt par la CPI contre Poutine. Ce mécanisme a permis la reconnaissance mondiale des crimes commis par son régime. Mais il reste le problème d'absence de mécanisme d'application de la loi dont je parlais précédemment. Des organisations et des groupes de personnes en Ukraine se sont organisés pour ramener certains enfants. À Amnesty International, nous ne sommes pas des passeurs. Nous ne faisons pas ce genre de travail. Notre travail est d'exposer ce crime, le rendre visible et demander des comptes. Les enfants ukrainiens souffrent de la guerre. Ils souffrent d'avoir été arrachés à leur famille pour être transférés et déportés en Russie. Dans les territoires occupés, s'ils suivent un enseignement en langue ukrainienne, leurs parents iront en prison et finiront dans des établissements spécialisés pour être endoctrinés. Il y a aussi les enfants ukrainiens qui vont à l'école sous les bombes. Et il y a ces enfants ukrainiens qui vivent à l'extérieur, comme ici en France. Leurs parents ne savent pas ce qui va leur arriver ensuite, s'ils pourront rentrer en Ukraine, ou comment les politiques des pays où ils ont trouvé refuge vont les affecter. L'incertitude est énorme. A-t-on des nouvelles sur le traitement des prisonniers ukrainiens en Russie après la publication de l'enquête d'Amnesty International ? Nous avons réussi à faire en sorte que ce sujet soit un peu plus présent dans l'actualité qu'il ne l'était auparavant, grâce à nos différentes enquêtes. Je pense que nous sommes les seuls, en dehors des organisations de l'ONU, à avoir réellement documenté les crimes de guerre commis contre les prisonniers de guerre et les détenus civils ukrainiens. Depuis la publication de nos enquêtes, nous n'avons malheureusement pas plus de nouvelles sur le traitement des prisonniers ukrainiens en Russie, qui restent complètement coupés du monde. Je rappelle aujourd'hui l'importance de continuer à écrire des lettres aux prisonniers ukrainiens. La Russie ne permet toujours pas aux organisations internationales de rendre visite et rendre compte du traitement infligé aux prisonniers. Elle ne permet pas au Comité international de la Croix-Rouge de remplir son mandat et d'accéder aux prisons russes pour documenter ce qui se passe derrière les barreaux. Nous avons eu le cas de Victoria Roshina, une journaliste ukrainienne qui a été emprisonnée en Russie et dont le corps a été ramené en Ukraine sans les yeux, sans la gorge. Nous ne pouvons plus détourner notre regard sur ces atrocités. Des gens sont torturés tous les jours et nous restons sans voix. En ce moment même, 31 journalistes ukrainiens sont détenus en tant que civils par les Russes. On va maintenant écouter une chanson Maroussia, qui est une chanson populaire ukrainienne et qui est chantée par les petits chanteurs de Bruxelles. Je vais vous parler maintenant d'un autre sujet, ce sont les lauréats de la bourse Gaëtan Moto 2025. Il s'agit de Nancy Adepo, Abdoulaye Sow et Fatoumata Diaraï Ba qui remportent la bourse Gaëtan Moto qui récompense chaque année de jeunes défenseurs francophones des droits humains originaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Gaëtan Moto était un chercheur pour l'Afrique de l'Ouest, un chercheur d'Amnesty International. Il aura passé plus de 30 ans au sein d'Amnesty, passionnément engagé dans le travail avec les défenseurs des droits humains de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Décédé le 25 mai 2018, la bourse qui porte son nom, la bourse Gaëtan Moto, fait perdurer son indéfectible combat pour les droits humains. Gaëtan était l'incarnation des droits humains. Il n'était pas seulement un chercheur très compétent et doué, il avait une remarquable capacité d'empathie avec les survivants de violations des droits humains, leurs familles et leurs communautés, et il avait le sens de la transmission aux jeunes défenseurs des droits humains. Les trois lauréats, je vais vous parler d'abord de Nancy Adepo. Elle est originaire de Côte d'Ivoire. Elle a obtenu un master en droit de l'homme et action humanitaire. Stagiaire à la Commission nationale des droits de l'homme, à la direction des requêtes et des enquêtes, et anciennement à International Planet Parenthood Foundation, Nancy a créé en 2020 et préside depuis l'ONG DARE, D-A-R-E, dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'enfant et à la lutte contre les violences basées sur le genre, avec un focus particulier sur l'éducation et la lecture. Depuis 2022, Nancy est également un membre actif de la Ligue ivoirienne des droits de la femme, pour laquelle elle a participé à des campagnes de sensibilisation contre le fémicide et organisé des marches pour les droits des femmes. Le deuxième lauréat est Abdoulaye Sow, originaire du Sénégal. Il a obtenu une maîtrise de sciences politiques. Il est coordinateur des volontaires de Greenpeace à Saint-Louis, au Sénégal. Il a mené plusieurs campagnes sur la protection de l'environnement et a participé à des formations et des forums sur la justice climatique. De septembre 2024 à janvier 2025, il a travaillé comme agent MEAL chez J-Exist, une ONG qui sensibilise les communautés à l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil pour la protection des droits des citoyens. En 2023 et 2024, il a occupé différentes missions au sein d'Africa Jobs Center, menant notamment une campagne de plaidoyer pour des élections libres, transparentes et apaisées au Sénégal. Et enfin, Fatoumata Diaraye est originaire de Guinée. Elle a obtenu une licence en relations internationales. Elle est assistante du programme à l'AGEDD, Association guinéenne pour l'éveil au développement durable, et a participé à des missions d'observation électorale au Libéria. Elle a été impliquée dans plusieurs missions de protection des droits des femmes et des filles, avec le PNUD sur la sensibilisation des femmes à l'état civil, à Women for Africa et avec Amnesty International sur une recherche sur les violences basées sur le genre. Elle préside également Women Hope Guinée, une ONG qui promeut le droit des femmes à la participation politique et au développement. Nancy, Abdoulaye et Fatoumata participeront à la 55e édition des sessions d'été de l'Institut international des droits de l'homme, Fondation René Cassin à Strasbourg, du 23 juin au 18 juillet 2025. Ils suivront des cours approfondis de droit international comparé, des droits de l'homme, de droit international humanitaire et de droit international pénal sous la direction des meilleurs spécialistes en la matière, issus de différentes régions du monde. Voilà les trois lauréats de notre bourse Gaëtan Moto 2025. On va maintenant écouter Barbara Pravi, c'est l'histoire d'un amour.
Thank you. la plainte des deux cœurs. Un robot comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, genre d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, sur le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lasse. C'est l'où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lasse. C'est l'où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. L'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lasse. C'est l'où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même. C'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais.
Voilà, devant ce monde de plus en plus illiberté, il nous faut nous mobiliser davantage. Je vais vous parler de cette possibilité que Amnesty International vous offre de vous mobiliser pour les droits humains. Chaque jour, partout en France, des personnes se mobilisent bénévolement, de façon ponctuelle ou régulière, pour transformer leur indignation en action et agissent sur le terrain ou en ligne pour porter nos différents combats collectifs. Leurs formes d'engagement sont variées et multiples. Pour promouvoir et défendre les droits humains, chaque geste compte. Comme vous le savez, les défis qu'il reste à relever sont nombreux. En cette période très particulière où le lien social est mis à rude épreuve, l'expression « ensemble, on est plus fort » prend encore un peu plus de sens et résonne en chacun de nous, que vous soyez membre ou non, militant au sein d'une structure locale, comme un groupe local, un cercle d'action ou une antenne jeune. Vous pouvez vous aussi vous inscrire pour porter haut et fort nos couleurs et nos messages. Chacun à son niveau peut participer à nos victoires collectives, car le monde peut changer, mais il ne changera pas tout seul. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Plus nombreux, nous sommes plus forts. En vous inscrivant, en allant sur le site amnesty.fr, vous verrez un formulaire et vous recevrez des bons plans pour agir ensemble. Des idées d'action et d'événements proposés par Amnesty International auxquels vous pourrez participer en fonction de votre temps, de vos envies, de vos compétences. Des sollicitations au plus près de chez vous pour prendre part à nos actions de terrain. Des informations sur la vie militante d'Amnesty International France. Alors n'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire sur le site amnesty.fr à la rubrique « Mobiliser pour les droits humains ». On va maintenant écouter un petit clip que nous avons fait, que vous pouvez re-entendre sur le site amnesty.fr. Ça s'appelle « Agir pour les droits humains » et on enchaînera avec la chanson de Daniel Balavoine, « Tous les cris, les SOS ».
Allô ? Je peux pas trop parler, là, je poire devant l'Elysée avec les militants d'Amnesty International.
À l'Elysée ?
Oui, l'Elysée !
Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ?
On est venu faire une action coup de poing et déposer notre pétition contre la prise de position du gouvernement. Là, c'est bon, ça fait trop longtemps qu'ils font la sourde oreille. Mais au fait, tu te souviens que t'as participé ?
Ah bon ?
Mais oui ! Signer et faire signer des pétitions, ce sont des actions qui peuvent se mener en équipe sur le terrain, mais aussi seules de chez toi. Et si je me souviens bien, tu avais incité pas mal de gens à participer. Alors là, dans la tonne de signatures qu'on leur ramène, il y en a quelques-unes qui sont là grâce à toi. Tu vois, tu t'engages déjà avec nous. Au fait, demain, je peux pas. Je vais à un festival, tu sais.
Tu vas en festival, toi ?
Oui, on tient un stand Amnesty International. Alors ça permet d'informer les visiteurs, d'échanger et de répondre à leurs questions. On fait souvent des opérations de sensibilisation dans des endroits sympas comme là. La prochaine fois, tu pourras venir si tu veux. Mais il faut que tu te prépares avant, hein. Faut être à l'aise avec son sujet si on veut bien informer les gens.
Ouais, mais c'est un peu technique quand même tout ce qu'il faut savoir.
Oui, mais ça va. En tant que bénévole, on n'est vraiment pas livré à nous-mêmes. Quand tu t'engages chez Amnesty International, tu peux te former à Paris, près de chez toi, ou en ligne, pour développer tes connaissances et compétences militantes. On te met à disposition tout le matériel pour agir. Tu peux même rejoindre d'autres bénévoles au sein d'un groupe local avec lesquels tu pourras échanger régulièrement et avec qui tu pourras participer aux différentes actions organisées par l'association. C'est comme ça que petit à petit, tu progresses et tu pourras commencer à ton tour à organiser des actions d'éducation aux droits humains dans des écoles ou des maisons de quartier. Et même mener des actions de plaidoyer au niveau local pour demander des comptes à nos élus ou les mobiliser.
C'est beaucoup de sensibilisation en fait.
Ah, ça c'est juste une partie de notre travail. Il est très important, mais il y a aussi plein d'autres types d'actions.
Ah bon ? Faudrait que tu m'en dises plus.
Et parfois, on intervient dans l'urgence. Tu sais que dès qu'Amnesty est averti d'une situation d'atteinte aux droits humains, on lance une action urgente qui peut mobiliser jusqu'à 170 000 personnes à travers le monde qui agissent tout en même temps pour faire cesser cette situation. Et là, ça te met quand même les dirigeants dans un sacré embarras. Tiens d'ailleurs, à propos, ça ouvre. On va être reçu. Bonjour, c'est Amnesty International. J'ai quelques lettres à vous donner, je vous les dépose où ? Dans l'allée, là ? Ça va boucher l'entrée, hein ? Comme vous voulez.
Changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire.
Voilà, nous allons maintenant parler un petit peu des actions du groupe Dinois. Le groupe a accueilli récemment un nouveau jeune, Raphaël. Et Raphaël va participer mercredi 4 juin et le mercredi suivant, le 11 juin, à une formation en ligne qui s'appelle « Connaître Amnesty International ». Donc, c'est une formation qui s'adresse à tous les nouveaux membres et puis aux anciens qui veulent aussi parfaire leurs connaissances. Et sur deux séances, nous allons leur présenter, leur former sur Amnesty International au niveau mondial. Et à la deuxième séance, plus particulièrement sur Amnesty International France et les actions qu'ils peuvent faire. Voilà, donc ce jeune sera à cette formation en ligne où il y aura un peu des gens de toute la France. Et de temps en temps, il y a même des gens de Belgique ou d'Afrique francophone à cette formation.
Qui c'est ce jeune, pardon? C'est quelqu'un de...
C'est un jeune là qui vient d'arriver là et ça fait... Il nous a aidés à la foire aux livres et c'est Charlotte qui l'a amené, qui est une connaissance de Charlotte. Et donc ça nous fait deux jeunes dans le groupe, on est contents. Voilà, et donc je pense qu'un jour il viendra un peu se présenter à la radio. Hein, ça sera bien. Le 14 juin, Gérard, un des membres du groupe, va aller aider le cercle d'action qui a été créé récemment à Guillaume, dans le nord du 06. Voilà, et comme c'est relativement près de là où habite Gérard, il va aller les aider pour tenir le stand d'Amnesty International. Le 21 et 22 juin, ce sera l'Assemblée générale d'Amnesty International France qui a lieu tous les ans, à des endroits différents chaque fois. Cette année, ce sera à Valence. Et c'est Charlotte qui était venue se présenter aussi et qui a animé plusieurs émissions, qui sera la déléguée de notre groupe. Le mercredi 25 juin, comme tous les derniers mercredis de chaque mois, c'est notre réunion de groupe à partir de 17h chez Madame Blanc. C'est la villa qui se trouve derrière le parking de l'État Les Trois-Vallées. Et bien sûr, si parmi les auditeurs, certains sont intéressés pour venir voir comment se passe une réunion, n'hésitez pas, nous vous accueillerons volontiers. Le mercredi 2 juillet à 18h, nous participerons avec d'autres associations à ce qu'on appelle la fête de la solidarité. Alors fête, F-A-I-T-E-S, c'est-à-dire faire de la solidarité, et c'est un jeu de mots sur la fête, parce qu'on fait aussi la fête en dansant, en écoutant la musique et en mangeant sur place ce qui a été préparé par chaque association. Peut-être le 3 juillet, on aura le ciné-débat Un médecin pour la paix. On attend la confirmation de Cinétoile. C'est un film justement qui parle d'un médecin palestinien qui a soigné des Israéliens hein, et qui prêche la paix entre les deux peuples. On en a vraiment tellement besoin. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On va terminer cette émission avec une musique qu'on écoutait quand j'étais jeune et qu'on n'entend plus beaucoup, Simon et Garfunkel.
Merci Régis.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.
People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls.